Radio Barque, on se retrouve. Et Michel, avant d'entamer la troisième partie de ce sommaire, tu voulais faire un petit ajout.
Oui, je voudrais rendre hommage ici à un jeune garçon qui, jeune, hein, quand même 52 ans,
vient de décéder,
oui. Qui vient de partir. Il s'appelait Emmanuel Darley. C'était un écrivain talentueux. Il avait une plume très, très sensible, très fine, enfin, très, très affûtée. Édité par les éditeurs Verdier, hein, qui sont installés à La Grasse, comme tout le monde le sait, en fait, je l'espère en tout cas. Il avait travaillé d'ailleurs sur le quartier Saint-Jean-Saint-Pierre, nous en parlions, hein. Il avait signé un ouvrage qui était intitulé Saint-Jean-Saint-Pierre, un quartier mosaïque. Il avait aussi écrit une pièce de théâtre dont la scène se déroulait au Monoprix de Narbonne, hein, place de l'Hôtel de Ville, qu'il avait d'ailleurs reçu à ce titre de nomination au Molière. Donc il habitait Narbonne depuis quelque temps. C'était un garçon délicieux, enfin, plein de sensibilité. Il est parti et on vient de perdre à la fois un grand auteur au plan national qui était reconnu dans le monde littéraire français et un citoyen de notre ville. Il n'était pas né, mais il la vivait de cœur. Et voilà, je tenais à lui rendre cet hommage-là ce matin.
Voilà qui est fait. Mais comme on dit en anglais, the show must go on, les choses doivent continuer. Donc nous enchaînons sur notre sommaire avec Gruissant.
Oui.
Pêche Rouge, l'INRA, Pêche Rouge, qui va avoir son conservatoire mondial, excusez du peu, des cépages.
Oui, mondial, parce que je tenais à l'adjectif en question. C'est une... Peu de gens, en fait, quand je suis arrivé dans cette région en 86-90, j'étais surpris par le fait que, d'abord, sur la commune de Marseillan, au domaine de Vassal, pratiquement tout le monde ignorait que, sauf les scientifiques évidemment, qu'on avait là le conservatoire mondial des cépages.
Ah, mais nul n'est prophète en son pays, Michel, tu le sais.
À Béziers, à Narbonne, personne ne savait. Personne. Comme personne ne savait à Narbonne qu'il y avait un laboratoire de recherche dans une station œnologique qui était reconnue dans le monde entier. Il a fallu, bon, je propose, enfin, passons.
Gruissant, c'était les dromadaires, point final.
Voilà. Donc, des années 90, Jean-Claude, je proposais, en fait, aux directeurs régionaux de l'INRA de l'époque, hein, Alfred Connessa, qui est maintenant maire d'une petite commune autour de Montpellier, et à son successeur, qui était Daniel Boulet, en fait, je disais, mais écoutez, dans ce domaine-là, un jour, ça va partir, ça appartenait à l'époque au groupe Listel, maintenant c'était propriété du conservatoire. Ce domaine est mal installé, ça va partir, donc si on ne fait rien, on risque de tout perdre. Donc je vous propose de transférer ce domaine sur le domaine de Pêche Rouge. Accord en 90. Mmh. Accord des régionales, le premier connaît ça, Alfred, et le second, Daniel.
Parfait. Et 26 années plus tard.
Le problème, bon, c'est que. Il a fallu 25 ans pour enfin arriver à un accord entre l'État, l'INRA, et les chercheurs et les vignerons, qui encore protestent d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, pour que ce transfert se fasse et que l'opération soit inscrite au contrat de plan actuel. Pour environ une somme de entre 2 et 3 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire.
Voilà. Mais là, hein, c'est
donc
acté.
Donc maintenant, c'est acté. Hein, puisqu'une première tranche de 750 000 euros a été débloquée pour certainement faire des études préalables et faire un certain nombre d'aménagements. Et enfin, nous aurons probablement à la fin de l'actuel contrat État-Région, le conservatoire mondial en fait, des cépages installé à Pêche Rouge. Alors pourquoi je proposais Pêche Rouge? Parce que tout simplement Pêche Rouge a déjà une notoriété scientifique dans le domaine viticole, en fait, qui est incontestable au plan national et international, et qu'en plus nous sommes dotés d'un laboratoire maintenant qui est sorti de la station œnologique, qui a une compétence lui aussi, je parle du laboratoire biologie de l'environnement, qui a une compétence aussi et un rayonnement international. Donc aujourd'hui, on a objectivement, en tout cas à terme, sur Narbonne, la Narbonnaise, avec l'INRA Pêche Rouge, le conservatoire des cépages et le laboratoire des biotechnologies de l'environnement, un potentiel scientifique que personne n'imaginait à l'époque quand on a commencé effectivement ce premier transfert, qui aujourd'hui fait que voilà, Narbonne doit une place scientifique INRA qui la place objectivement comme une des principales places scientifiques de la grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.
Voilà, un pôle scientifique vitivinicole qu'il faut souligner.
25
et,
ans.
Voilà, et sur lequel nous reviendrons lorsque la chose va se concrétiser, puisque pour le moment, ça n'est pas tout à fait réaliser. Mais nous y reviendrons. Pour cette deuxième partie, pour la conclure, Michel, tu as fait sur ton blog une chronique que tu intitulais « Des tampons, deux tampons, alors à Rossignol et à Détor ». Explication de texte.
Oui, alors on change de registre, on entre dans la politique à la fois nationale et régionale.
Et rude, et comme on dit, viril, Oui, correct, je sais pas.
En tout cas, bon, on ne citera pas les termes utilisés par Nicolas Sarkozy.
On ne pourra pas, mais Dixit. Alors, explique d'abord et on y reviendra.
Il se trouve que Nicolas Sarkozy, qui est le patron des Républicains, était à Nîmes il y a quelques jours de cela, hein, où tenait réunion, meeting, enfin, bon, peu importe la nature de la réunion en question. Et tous les cadres et les grands élus de la région étaient là, évidemment, notamment les
maires de la Grande Motte et d'Agde.
Et notamment deux d'entre eux, Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte, mais qui est aussi maintenant conseiller régional, quoi, hein, de la Grande Région. Il était avant aussi, donc il est toujours, hein, comme notre invité d'aujourd'hui, hein, qui est encore conseiller régional, et aussi accompagné du maire d'Agde et président de la communauté d'agglomération méditerranée, en fait, hein, qui est monsieur Détor, qui était avant député, qui a été battu là, à l'occasion d'une triangulaire aux dernières élections législatives. Il se trouve que ces deux personnes, notamment Rossignol, tenaient à rencontrer et à parler de vive voix, en fait, à Sarkozy, parce que Rossignol est en conflit avec sa fédération, au motif qu'il n'apporterait pas réglé, même s'il prétend l'avoir fait, mais pas tout à fait correctement d'après les règles strictes du parti, la part des indemnités d'élus qui doivent être à son parti. Du coup, il ne peut pas être candidat à la présidence des Républicains au plan départemental de l'Hérault.
De l'Hérault, oui.
Et son concurrent direct, qui est notre voisin Elie Abou, mais qui est aussi un Narbonné de professionnel, puisqu'il travaille à l'hôpital Narbonne, lui se retrouve quasiment seul, effectivement, hein, pour ne pas dire seul, et donc il sera élu.
Donc, pronostic, il va gagner.
Voilà. Alors, inutile alors, ce qu'il faut en plus préciser, c'est que Nicolas Sarkozy n'était pas content, enfin, quand il a entendu Rossignol lui demander de faire un petit écart à la norme pour être candidat, il a pris un voyage, mais alors, dans des termes particulièrement, comment dirais-je, scatologique, fait, oui. Pour utiliser
alors justement,
le qualificatif.
Alors une petite précision, oui, dans cette émission Radio Barque, où l'on manie la satire et l'ironie très volontiers, on évite quand même toute grossièreté. Donc, on évoquera simplement les termes prononcés, paraît-il, selon le canard enchaîné, par Monsieur Sarkozy, en disant qu'ils sont, comme tu dis, très scatologiques, voire excrémentiels, et faisant parfois aussi des références à des pratiques sexuelles, disons, genre mariage pour tous, quoi. Voilà.
Oui,
pour,
donc voilà.
Pour rester dans le français correct.
Je te laisse la paternité de ces propos. Moi, je renvoie les auditeurs au dictionnaire pour aller voir comprendre ce que signifie le terme en question. Mais toujours est-il que, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que Arnaud Julien, qui était le patron, hein, du 34, hein, des Républicains, a été viré, en fait, contre l'avis de Sarkozy et de la commission d'investiture des Républicains. Donc, ce monsieur Arnaud Julien a été viré au dernier moment par l'équipe Régnier, Rossignol et compagnie, de la liste des régionales. Donc, inutile de te dire, Jean-Claude, inutile de vous dire, chers auditeurs, que quand toi s'appelle Sarkozy, se faire renvoyer dans les buts au dernier moment comme ça, hein, par Régnier, Rossignol et puis un certain nombre d'autres autour.
Et puis des provinciaux de surcroît.
Provinciaux, il n'apprécie pas donc le voyage général. Alors, ce qu'il faut quand même aussi savoir, indépendamment de ce premier aspect, pour comprendre la situation que je viens d'évoquer, c'est que Stéphane Rossignol a aussi l'inconvénient de soutenir François Fillon.
Ah oui, ben oui.
Et
forcément.
Comme il soutient François Fillon, il est évident que Sarkozy, lui, dans le contexte d'aujourd'hui, fait qu'il prépare les primaires, sort son moqueur, il a un intérêt objectif, quoi qu'on pense par ailleurs de la personne, à contrôler la manière la plus efficace possible son parti. Mmh. Et donc d'avoir le maximum de soutien, si je puis dire, dans les représentants ou dans ceux qui seront élus pour diriger le parti au plan régional.
Voilà. Et de ce point de vue, quand on sait cette réalité, on se doute bien que ça ne va pas, comme on dit, fluidifier les relations entre les personnes.
Et quand on sait que Elie Abou, lui, fait, est un sarkozyste convaincu, fait, et militant, ben voilà, on a tout compris, effectivement, des raisons profondes, au fait, de réelles, qui ont expliqué cette algarade particulièrement musclée.
Voilà. Et quant à la citation exacte, eh bien, nous renvoyons au canard enchaîné pour ceux qui sont curieux de savoir quels sont les mots exacts et verbatim qui ont été prononcés. Michel, peut-être
un petit commentaire, effectivement, pour regretter cette
situation
dans l'Hérault. Des élections, qu'elles soient internes ou pas d'ailleurs, doivent toujours se dérouler dans la sérénité. Cette fédération aujourd'hui en manque cruellement. Je pense qu'il aurait été plus sage, comme cela a été le cas dans la Nièvre par exemple, de les reporter et de les organiser après avoir trouvé les voies de l'apaisement entre les différents protagonistes, parce qu'un scrutin qui n'est pas serein comme celui-là ne permettra pas à cette fédération ensuite de travailler correctement. Ce n'est pas le cas de la fédération dans l'Aude, où les élections seront organisées dans une parfaite et totale sérénité.
Voilà, en tout cas, voilà un point de vue empreint de sagesse, si je puis dire.
Je note aussi quand même que dans ce département, que ce soit à droite, que ce soit au Parti Socialiste, quand même, il se passe beaucoup de choses qui montrent qu'effectivement il y a des tensions sérieuses. Quoi.
Ouais. On marque une deuxième pause et on retrouve dans la troisième partie notre invité, Michel Py, maire de Le 4, conseiller régional d'opposition. Depuis quelques semaines. On revient sur ces sujets dans un petit instant.